Bonjour, David Béran du service de médecine tropicale et humanitaire de l'Université de Genève. J'ai eu l'opportunité de vous présenter un cours sur l'introduction des systèmes de santé. Et maintenant, on va passer plus spécifiquement à un cours sur les systèmes de santé et la prise en charge du diabète. Donc, juste pour rappel, les objectifs spécifiques d'apprentissage de ce cours, en plus du cours sur l'introduction des systèmes de santé, et le troisième élément de ce cours, la consultation spécifique. Donc, l'idée derrière ces trois cours, c'est de mieux comprendre le rôle global des systèmes de santé, de comprendre le rôle et les limitations actuelles des systèmes de santé pour la maladie chronique. Et donc, la présentation qui va suivre va montrer ces défis du point de vue du diabète, comprendre la structure d'une consultation médicale pour une personne avec une maladie chronique. Et enfin, comprendre comment intégrer différents éléments par rapport à la nutrition et l'activité physique dans une consultation médicale pour quelqu'un avec une maladie chronique. Donc, de nouveau, comme je viens de le dire, ce module est composé de quatre parties: l'introduction au système de santé que j'ai donné auparavant, les systèmes de santé et les maladies chroniques que je vais donner maintenant en utilisant le cas spécifique du diabète, et enfin, la consultation d'une personne avec une maladie chronique et un jeu de rôle. Donc, cette deuxième partie inclut vraiment les éléments suivants par rapport aux recommandations de l'OMS. Donc, comment développer un environnement politique approprié à la prise en charge d'une maladie chronique? Comment intégrer la prestation des soins dans un système de santé où on a besoin de prendre en compte plusieurs éléments, plusieurs maladies. Comment aligner les politiques dans le but de réduire le fardeau de la maladie? Donc, il y a des politiques au niveau du système de santé, mais aussi des politiques en dehors de ce système. Comment utiliser de façon optimale le personnel de santé? Dans beaucoup de contextes, on a un manque de médecins. Donc, quel rôle pour les infirmières? Quel rôle pour d'autres professionnels de la santé? Comment mettre le patient et sa famille au centre des soins? Comment promouvoir le soutien au niveau des communautés pour les patients et encourager la prévention des maladies et la prévention des complications? Si on regarde différents éléments du système de santé nécessaires pour la prise en charge du diabète, on a différents facteurs qui sont présentés sur ces diapositives. L'abordabilité et la disponibilité des médicaments, le rôle des communautés et des associations de diabète, l'éducation et la responsabilisation, ou pour utiliser le terme en anglais, empowerment des patients, les ressources humaines, l'organisation des soins, la collecte des données, cet environnement politique propice qui est nécessaire pour la prise en charge du diabète, les mesures préventives, les outils de diagnostic et l'infrastructure nécessaire pour la prise en charge du diabète, les éléments nécessaires pour l'adhérence et l'observation du traitement, et enfin l'approvisionnement en médicaments. Et donc les diapositives qui suivent vont décrire ce contexte du point de vue de la prise en charge du diabète. Donc pour commencer, l'organisation du système de santé. Quels sont les défis? Donc dans plusieurs contextes, c'est un problème par rapport à l'accès aux soins. Donc, en zone urbaine versus les zones rurales, quels sont les défis par rapport à l'accès? Est-ce que c'est purement géographique? Est-ce que c'est un manque de structures sanitaires? Et donc, comment les patients doivent faire face à ce défi? On voit aussi dans beaucoup de pays que le diabète est encore pris en charge seulement au niveau hospitalier et qu'il y a un manque d'organisation des soins par rapport au suivi, par rapport au référencement et au contre-référencement. Donc, si je suis suivi au niveau d'un centre de santé et si je suis envoyé à l'hôpital pour quelque chose de spécifique, des fois, je reste coincé, si on peut utiliser ce terme, à l'hôpital, parce que mon suivi maintenant se fait seulement à l'hôpital et non plus près de chez moi dans un centre de santé. Comment, au sein du système de santé, est-ce que mes complications ou mes comorbidités sont gérées? Est-ce que je dois voir plusieurs spécialistes pour toutes mes maladies ou est-ce qu'il y a un endroit où, en tant que personne, on peut suivre tous mes besoins au niveau de ma santé? Comment aussi organiser les systèmes de santé pour utiliser les ressources humaines d'une manière optimale et de nouveau organiser les soins pour avoir ce lien avec la famille et la communauté. Donc, quelques solutions qui existent. Donc, c'est des solutions qui ne sont pas nécessairement basées sur des études, mais si vous voulez, ces solutions que je vais présenter tout au long de ma présentation peuvent être des moyens de réfléchir à mieux gérer le diabète dans votre contexte. Est-ce que c'est d'avoir des consultations spécialisées, donc d'avoir une consultation spécifique pour le diabète? Les systèmes de référencement, est-ce que c'est d'avoir des liens privilégiés avec certains médecins, certains centres, et de faciliter le référencement de cette manière? Donc, quel rôle pour les travailleurs de santé? Est-ce que c'est un rôle spécifique? Donc, de définir le rôle de certaines personnes au sein d'une structure. Est-ce que c'est définir des nouveaux rôles? Donc, dans certains pays, surtout des pays anglo-saxons, on voit des infirmières spécialistes dans le domaine du diabète. Quel rôle aussi est-ce qu'on peut définir par rapport à chaque niveau du système de santé par rapport à la prise en charge du diabète? Clairement, un centre de santé ne peut pas avoir la même prise en charge qu'un hôpital au niveau national, mais ce centre de santé a quand même un rôle à jouer et quel est ce rôle au sein du système de santé? Et de nouveau, comment est-ce qu'on implique la famille, pardon, la communauté dans les soins? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est des associations du diabète, comme on le verra plus tard? Par rapport à la collecte des données, certains défis qu'on rencontre dans plusieurs pays, c'est il n'y a pas de systématisation des données. Donc on a des registres de patients, mais on ne sait pas si c'est des individus ou des consultations. Et le dossier de patient, des fois on le perd, des fois il reste avec le patient. Et donc on n'a pas de données claires au niveau d'une structure de santé ou au niveau d'un patient. En plus, en Afrique, on voit qu'il y a très peu d'études, mais que c'est en train de changer. Et donc, on voit plus en plus d'études épidémiologiques ou cliniques, beaucoup plus de pays qui ont pris l'approche de l'OMS qui s'appelle WHO Stepwise, qui regarde les facteurs de risque, et aussi certains pays qui ont analysé un peu leur système de santé par rapport à la prise en charge du diabète. Par exemple, au Mali, où l'ONG Santé Diabète a fait cette étude sur les barrières, et les facilitateurs de la prise en charge dans le contexte malien. Donc, différentes solutions existent par rapport à cette collecte de données. Est-ce que c'est des fiches de présence? Donc, chaque jour, d'avoir le nombre de consultations, d'avoir un dossier patient. Est-ce que ce dossier reste au sein du centre de santé, de l'hôpital, ou est-ce que c'est un dossier que le patient garde? Comment est-ce qu'on peut avoir des registres à différents niveaux? Des registres au niveau national, régional ou subrégional, au niveau d'un district? Comment est-ce qu'on peut développer des études spécifiques par rapport aux facteurs de risque, par rapport au statut de santé d'une population, ou même par rapport à la prise en charge et les systèmes de santé. Et aussi de développer en Afrique des études épidémiologiques et cliniques pour mieux comprendre le diabète dans un contexte africain. Par rapport à la prévention, je pense que vraiment l'aspect de la prévention primaire, c'est le plus gros défi, c'est qu'on ne parle plus d'un problème seulement de santé, mais un problème de société. Et de nouveau, dans un contexte africain, et même, on pourrait le dire au niveau global, il y a très peu de recherches, ou s'il y a des projets de recherche ou des études, leurs résultats ne sont pas traduits au niveau d'une population. Par rapport à la prévention secondaire et tertiaire, on voit réellement la faiblesse des systèmes de santé par rapport à certains facteurs comme l'accès aux médicaments, le manque de ressources humaines ou le manque d'outils de diagnostic. Par rapport aux solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la prévention primaire, c'est vraiment seulement pour le diabète de type 2. Et je sais que dans beaucoup de cours qui ont été présentés dans ce module sur la nutrition et le diabète, mes collègues ont présenté beaucoup d'éléments sur comment changer les habitudes alimentaires ou différents facteurs qui pourraient être des pistes de prévention primaire pour le diabète de type 2. Et là, vraiment, j'aimerais juste souligner l'aspect culturel et aussi cet élément régime alimentaire et activité physique. Donc, comment est-ce que dans un contexte africain, on arrive à changer la manière dont les personnes mangent et comment les personnes ont leur activité physique dans un contexte culturel qui est très différent. Comment est-ce qu'on peut baser ces interventions au niveau de la communauté et aussi d'avoir une base et une approche basée sur la population. Et donc, de nouveau, un endroit où, en Afrique où on a besoin de recherche. Pour la prévention secondaire et tertiaire pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2, un diagnostic précoce, améliorer les soins et le suivi des patients. Et de nouveau, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans l'autre présentation sur les systèmes de santé, comment vraiment prendre en compte l'individu et tous ses besoins par rapport à la prise en charge médicale. En regardant les outils de diagnostic et l'infrastructure, donc les défis sont vraiment la disponibilité des outils de diagnostic. Donc, par exemple, au Mali, en 2004, dans beaucoup de centres de santé ou même au niveau des hôpitaux, il y avait un manque d'outils de diagnostic, que ce soit les bandelettes urinaires, les bandelettes pour les corps cétoniques ou même d'un glucomètre. Et ensuite, il y a le facteur coût. Est-ce que le patient doit payer? Si oui, à quel prix? Et je pense qu'il est aussi important de souligner le coût pour le système de santé d'avoir ces outils de diagnostic. En regardant les solutions, donc comment est-ce que chaque niveau du système de santé peut avoir un outil pour le diagnostic et le suivi du diabète approprié aux ressources, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières, et de nouveau, de conjuguer ces outils avec l'approche intégrée du patient. Et de nouveau, je vais souligner l'importance du personnel soignant dans cet élément, en lien, pardon, avec cet élément des outils de diagnostic. Aussi, un autre élément, c'est l'accessibilité et la disponibilité des médicaments et des soins. Donc, les médicaments pour le diabète sont chers pour l'individu et le système de santé et pas toujours disponibles pour l'individu. Différentes solutions sont proposées, le financement communautaire, des critères d'exemption par rapport aux revenus, par rapport à l'âge, des subventions pour certaines populations de nouveau, les mutuelles et les systèmes d'assurance. Je pense qu'aussi, comme j'ai mentionné lors de mon autre présentation, les soins de santé primaires et aussi la couverture universelle sont deux mesures, deux solutions très importantes à prendre en compte par rapport à ce fardeau financier que peut représenter le diabète. Et donc là, juste pour vous montrer quelques données par rapport à différents pays en Afrique et en Amérique latine et en Asie, par rapport à la disponibilité et l'abordabilité, le coût de ces médicaments, on voit en bleu le secteur public, en rouge le secteur privé, et on voit que dans beaucoup de contextes, la disponibilité de l'insuline dans ce cas est très bas. Par exemple, si on regarde le Mozambique en 2003, moins de 40%, pardon, environ 20% dans le secteur public de pharmacie avait de l'insuline disponible, un peu moins de 40% dans le secteur privé. Donc, ce qui montre réellement que si on a un besoin d'insuline, cette insuline, on ne peut pas la trouver. Et en termes de coût, si on regarde par exemple la Zambie, dans le secteur privé, on parle de plus de $200 par an pour juste l'élément insuline. Et donc, de nouveau, ce facteur coût est un fardeau important pour le patient. Et aussi, je pense qu'il est important, surtout pour vous, dans votre contexte, de réfléchir à cet élément disponibilité et abordabilité. Est-ce que l'insuline, les médicaments pour le diabète sont disponibles? Et si oui, est-ce qu'ils sont abordables? Parce que c'est une chose si dans toutes les pharmacies, on peut trouver de l'insuline ou d'autres médicaments, mais si c'est un prix très cher, ces médicaments ne peuvent pas être achetés par la majorité de la population. Et aussi par rapport à l'accessibilité et la disponibilité des médicaments et des soins, il ne faut pas oublier que l'insuline, les médicaments sont seulement une partie du coût total de la prise en charge du diabète. Et on voit par exemple les seringues, les consultations et même le coût du voyage peuvent rajouter au prix total de la gestion du diabète. Donc si par exemple on regarde le Mali en 2004, l'insuline représentait 38% du coût total, les seringues 34%, l'aspect laboratoire, test de diagnostic 8%, la consultation 7% et les frais de déplacement 12% pour un coût total d'environ 340 dollars par année, ce qui représente un fardeau énorme pour beaucoup de personnes au Mali ou dans d'autres pays africains. Ce qui est important en réfléchissant à ce problème d'abordabilité, de disponibilité de médicaments, c'est aussi de se dire que les médicaments n'apparaissent pas seulement dans les pharmacies comme ça, par miracle, malheureusement, et qu'il faut penser à toute la chaîne d'approvisionnement et de distribution des médicaments. Et donc, beaucoup de problèmes existent par rapport à la procédure d'achat, aux appels d'offres, aux achats au niveau local, en termes d'impact sur le coût pour le ministère de la Santé ou pour le patient, comment est-ce que la chaîne d'approvisionnement fonctionne, et aussi l'utilisation rationnelle des ressources, parce que le médicament doit aussi être bien utilisé pour être efficace. Par rapport aux solutions, de nouveau, malheureusement, pas de solution miracle, mais comment est-ce que le gouvernement peut allouer un budget suffisant pour les médicaments pour le diabète, de développer des procédures d'achat qui mènent à des prix abordables pour le système et pour le patient, de bien définir les besoins en termes de nombre de patients, nombre de médicaments, nombre de flacons d'insuline, d'avoir un approvisionnement efficace qui est lié aussi à une distribution efficace. Donc on voit dans beaucoup de pays que l'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète restent dans la capitale et ne vont pas en périphérie. Mais de nouveau, comme je l'ai mentionné avant, la distribution de médicaments ne s'arrête pas à la pharmacie. C'est aussi est-ce que ce médicament est prescrit d'une manière rationnelle et est-ce que le patient l'utilise d'une manière correcte. Enfin, par rapport aux ressources humaines, les défis sont vraiment la quantité. Est-ce qu'il y a suffisamment de médecins, d'infirmières ou d'autres soignants? Et aussi la qualité en termes de formation par rapport à la prise en charge du diabète. Donc par rapport aux solutions pour la formation, donc spécifique aux maladies, donc est-ce que la formation par rapport au diabète est suffisante? Mais aussi je pense qu'il est important d'avoir une formation par rapport à la gestion d'une maladie à long terme. Comme je l'ai mentionné lors de ma première présentation, quand on parle de diabète, on parle d'une gestion à plusieurs années. Et donc, comment est-ce qu'un médecin peut prendre le temps des fois de gérer la maladie d'une manière différente et aussi de ne pas être forcé de trouver une solution. Pour une maladie transmissible, il faut trouver la solution. Il faut trouver quelle maladie et prescrire le bon médicament. Pour le diabète, malheureusement, le patient devant le soignant ne va jamais être soigné. Et donc, comment est-ce qu'on gère ce malade, cette personne à long terme? Et je pense qu'il est aussi important de réfléchir à la formation pour le personnel, les professionnels déjà pratiquants et aussi les professionnels en formation. Comment est-ce que le curriculum dans les facultés de médecine, dans les facultés ou les écoles d'infirmières doit être modifié pour prendre en compte la prise en charge du diabète? De nouveau, aussi, est-ce qu'il y a besoin de nouvelles spécialités en Afrique par rapport à la nutrition et la santé publique? Et aussi, une approche à comment travailler en équipe entre différents corps de métier, par exemple les médecins, les infirmières, les psychologues, les nutritionnistes, etc. Par rapport au problème d'adhésion au traitement, si on regarde la littérature, on voit deux raisons pour ces problèmes d'adhésion au traitement, le coût du traitement et un manque d'information. Et donc, pour moi, il y a plusieurs solutions et certaines solutions sont au niveau du système, donc par rapport à la couverture universelle ou l'organisation des soins aussi proches que possible de l'individu, en revenant à ce concept de soins de santé primaire, mais aussi des solutions plus proches, si on peut dire comme ça, de l'individu, avec de l'éducation, de l'information adaptée au contexte, adaptée aux patients. Et aussi le rôle du personnel soignant en tant qu'accompagnant, en tant que professeur, si on peut dire ça comme ça, qui va aider cette personne à comprendre quelque chose d'assez complexe et de l'accompagner au fil des changements nécessaires pour cette personne, pour lui donner les connaissances, les compétences nécessaires pour gérer sa maladie au quotidien et de nouveau ce lien nécessaire avec la famille et la communauté pour accompagner cette personne. Et ceci est très fortement lié à l'éducation et à la responsabilisation des patients. Donc les défis vraiment, c'est la littératie en santé de la population. Est-ce que la santé est connue par la population? Est-ce que le diabète est connu par la population? Aussi, on voit un manque d'importance donné par les professionnels de santé par rapport à cet élément d'éducation, un manque de temps. Comment intégrer cet élément dans une consultation qui peut durer 5, 10, 15 minutes? Et aussi, on voit quand l'éducation est donnée dans une consultation, on voit cette concentration vraiment sur l'alimentation et non pas sur d'autres éléments. Donc, les solutions, comment est-ce qu'on peut avoir des patients qui ont les connaissances, les compétences, les motivations et les attitudes nécessaires vraiment pour connaître l'impact d'une décision qu'ils vont prendre? Donc, si je mange trop aujourd'hui, ça va avoir quel impact par rapport à ma santé? Si je suis le traitement que mon médecin m'a donné, quel impact sur ma santé? Et d'avoir assez d'informations pour qu'ils puissent changer leur propre comportement. Le médecin ne va pas pouvoir prescrire un régime strict et être sûr que le patient va le suivre. Mais comment est-ce que, à travers l'information, l'éducation, le temps que ce médecin va passer avec son patient, est-ce qu'il pourra changer ses comportements? Et tout cela pour montrer à l'individu comment ces changements, ces modifications, cette prise de médicaments, ce régime, cette augmentation de l'activité physique peut améliorer la qualité de vie. Et de nouveau, l'importance d'utiliser des outils culturellement adaptés. Et en bas en rouge, vous pouvez voir qui a un chapitre spécifique sur l'éducation à l'auto-prise en charge et donc de faire le lien entre cette diapositive et ce cours qui est beaucoup plus détaillé. Un autre élément, c'est vraiment cette participation de la communauté et le rôle des associations du diabète. Les défis sont malheureusement un manque de ressources. Quel rôle est-ce que ces organisations peuvent avoir? Et aussi la vision du rôle par rapport au ministère de la Santé, aux professionnels de la santé et des personnes avec le diabète. Donc vraiment, c'est quoi le rôle de la communauté, des associations du diabète dans ce contexte où on essaye d'améliorer la prise en charge du diabète? Les solutions, pour revenir un peu à l'élément éducation, donc est-ce que le rôle de la communauté, des associations du diabète, c'est l'éducation et la formation des familles et de la communauté? Comment est-ce que dans certains contextes, on a besoin d'impliquer les tradipraticiens de par leur rôle important dans le système de santé et de par leur rôle au niveau des communautés? Pour les associations du diabète, on voit différents rôles dans différents contextes, un rôle de plaidoyer, un rôle de formateur des patients et aussi des professionnels de santé, ou seulement un rôle de soutien pour les patients et leurs familles, et dans certains cas aussi, les associations peuvent être prestataires de soins. En venant probablement à l'élément le plus complexe de tous les éléments pour la prise en charge du diabète, c'est vraiment l'environnement politique propice. Donc les défis, c'est vraiment que l'important, c'est les politiques qui sont en dehors du système de santé. Par exemple, dans beaucoup de pays, il y a des taxes et des droits de douane sur les médicaments. Ce rôle-là n'est pas le rôle du ministère de la Santé, mais du ministère des Finances ou de l'Économie. L'alimentation, l'agriculture sont de nouveau des facteurs très importants pour la prise en charge du diabète, mais ces facteurs sont en dehors du système de santé. Les ressources disponibles, les ressources des pays, l'importance que les bailleurs donnent par rapport au diabète ou maladies non transmissibles. Et enfin, ces éléments politiques liés à la prestation des soins, qui paye pour les services et les médicaments? Est-ce que le gouvernement a une position par rapport à la couverture universelle pour le diabète qui prend en compte et en charge tous les éléments liés au diabète ou est-ce qu'on est dans un système où tout est à la charge du patient? pour les solutions, on voit beaucoup de pays qui développent des politiques nationales pour le diabète ou pour les maladies non transmissibles. Et ces politiques incluent la prévention, l'organisation des soins, les aspects financiers des médicaments et des soins, et aussi d'allouer des ressources appropriées pour la prise en charge des maladies non transmissibles et au diabète. Dans ces politiques, on voit aussi les tentatives de liens intersectoriels, par exemple entre différents ministères ou même avec le secteur privé. Enfin, ce qui est important, c'est vraiment de développer des outils qui permettent à long terme d'évaluer cet impact et d'améliorer aussi la formation continue et d'utiliser ces expériences pour améliorer la prise en charge du diabète. Et aussi au niveau global, qui sort un peu du cadre des pays spécifiques, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des bailleurs qui reconnaissent le diabète comme un problème de santé globale. Juste en dernier, je pense qu'il est important de faire le lien entre le système de santé et les besoins de l'individu. Quelqu'un avec le diabète n'est pas défini par sa maladie et il a besoin de différents éléments du système de santé, mais aussi de la communauté pour survivre, vivre et profiter normalement de la vie. Et là, cette pyramide vous montre qu'il y a certains besoins nécessaires pour la survie, d'avoir accès au système de santé, d'avoir accès aux médicaments, mais que une fois que ces besoins de survie de base pardon, sont présents, comment est-ce que le rôle du système de santé devient un peu moins important et le rôle de la communauté devient de plus en plus important par rapport, par exemple, à être ouvert avec son diabète ou d'accepter son diabète. On voit dans beaucoup de contextes que les gens cachent leur diabète ou n'acceptent pas leur maladie. Et est-ce que c'est lié à certains facteurs dans la communauté? Et comment est-ce que le système de santé peut sortir du cadre traditionnel et de faciliter la vie au quotidien des personnes? Parce que l'interaction avec le système de santé, même ici en Suisse, pour quelqu'un avec le diabète, est de seulement 4 heures. Et le reste du temps, cette personne est en train de gérer son diabète au travail, à la maison, à l'école, en famille, dans sa communauté. Et comment est-ce que la communauté, la famille doivent avoir des outils nécessaires pour soutenir cet individu? Donc, pour conclure, différents éléments du système de santé sont importants pour cette prise en charge du diabète. Et je pense qu'il est intéressant pour vous, dans votre contexte, de réfléchir aux 11 éléments que je viens de présenter et de réfléchir aux défis qui sont présents dans vos contextes et comment peut-être, vous, en tant que professionnel, vous pouvez répondre à ces besoins. Qu'il faut aussi une approche intégrée avec une vision intégrée, une vision complète sur l'individu et non la maladie. Toute personne est différente, même s'ils ont la même maladie, et comment est-ce que le système de santé peut répondre aux besoins spécifiques de l'individu? Comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir à ces éléments, pas comme des éléments individuels, mais aussi le lien entre ces éléments? Par exemple, l'accès aux médicaments et l'adhésion au traitement. On peut avoir un patient qui est bien informé, qui a toute l'information, mais s'il ne peut pas acheter ses médicaments, malheureusement, il ne va pas pouvoir gérer son diabète. Aussi très important de se souvenir que les besoins des personnes vont au-delà du système de santé. Les besoins en termes de soutien, les besoins en termes d'accès à l'alimentation, à la possibilité de faire de l'activité physique, vont au-delà du système de santé. Et aussi, comment avoir un système de santé qui est centré sur les besoins des personnes? Je laisse cette conclusion avec un point d'interrogation, parce que je pense qu'il est difficile de trouver une vraie réponse à ce problème, et je pense que ça peut être un élément de discussion dans votre pays, avec vos collègues, sur comment est-ce qu'on change ces systèmes de santé qui sont vraiment pas adaptés aux maladies chroniques et qui sont qui sont organisés, pardon, pour donner des solutions, donner un médicament, donner un diagnostic, donner une consultation, mais pas nécessairement répondre aux besoins des patients. Et donc, comment est-ce qu'on peut changer ça dans différents contextes? La prochaine partie de ce cours est un jeu de rôle pour vous donner un exemple d'une consultation très simple et voir comment aborder les aspects de la nutrition et de l'activité physique avec un patient. Ce jeu de rôle aussi essaye de vous montrer d'une manière très simple comment se focaliser sur la réalité du patient et de regarder, je pense qu'il est important de regarder cet exemple avec un œil critique et de ne pas regarder ça comme l'exemple parfait d'une consultation, mais l'idée derrière ce jeu de rôle, c'est de vous présenter un exemple qui peut vous aider dans votre pratique au quotidien. Merci beaucoup. Et bon cours.